Vous écoutez Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, auteure et ancienne recruteuse. Chaque vendredi, je vous donne plein de conseils pour vous aider à trouver un job ou un stage. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn, mais aussi sur notre nouveau répondeur au 01 73 05 45 27. Chers amis de Trouveurs d'emploi, bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode avec, pour la deuxième fois, Caroline Mignot qui nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler d'un sujet qu'elle maîtrise parfaitement, comment bâtir son réseau quand on cherche un job. Alors Caroline, pour ceux qui ne la connaissent pas, est la cofondatrice de l'entreprise Refer, mais c'est surtout la créatrice du podcast très connu qui s'appelle Marketing Square, qui est un podcast destiné à tous ceux qui aiment LinkedIn. Est-ce que je t'ai bien présenté, Caroline ? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
C'est top, Christelle. C'est encore mieux que la première fois. Du coup, je vais avoir des grosses attentes pour le troisième volet.
J'essaierai de faire encore mieux.
Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault.
On a pris la décision de parler à la fois de la manière de créer un réseau physique, mais aussi un réseau finalement virtuel. Tu vas nous expliquer tout ça. Le réseau a été traité dans différents épisodes de Trouveurs d'emploi, mais je trouve toujours intéressant, parce qu'il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi, d'avoir des avis et des regards différents. Toi, tu viens du marketing, tu viens du gross marketing, tu fais partie de la nouvelle génération et j'ai envie que tu nous donnes tes techniques qui peuvent aider les chercheurs d'emploi à développer leur réseau.
Avec plaisir, je jure de dire tout ce que je sais, Christelle.
Alors, nous t'écoutons, Caroline. Premier conseil.
Alors, le premier conseil pour moi, pour développer son réseau, c'est déjà, bêtement, de se rendre compte que développer son réseau en ligne, c'est pareil que dans la vraie vie. Il faut avoir du savoir-vivre, du savoir-être, il faut être dans l'écoute, il ne faut pas hésiter à partager. En fait, les réseaux sociaux, c'est que un reliquat, c'est que le miroir de ce qu'on vit dans la vraie vie, finalement, à l'échelle, en décuplé. À partir de là, on peut se dire, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu plus sensibles, que il y a aussi beaucoup d'émotions à la clé, puisque forcément, c'est des échanges qui sont décuplés, en positif comme en négatif.
Alors, faire preuve de savoir-vivre, ça peut être, par exemple, quand on invite quelqu'un à rejoindre notre réseau ou quand on veut rejoindre son réseau, joindre un petit message dans sa demande de connexion. Beaucoup ne le font pas et c'est dommage, à la fois d'un point de vue humain et à la fois vis-à-vis de l'algorithme. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je conseille de toujours trouver une entrée pour rentrer en contact avec quelqu'un.
T'as tout dit et tu me sers la deuxième astuce sur un plateau. C'est effectivement, on a tendance, quand on bâtit son réseau, à avoir une démarche intéressée. Et du coup, on arrive un peu la fleur au fusil en disant « bonjour, je vous contacte pour ». Et finalement, est-ce que dans la vraie vie, vous appréciez cette démarche un petit peu brusque, un petit peu la technique du pied dans la porte d'un démarcheur qui frappe à votre porte et qui dit « bah voilà, je vends ça, est-ce que ça vous intéresse ? Je vous contacte parce que vous êtes telle personne et potentiellement vous auriez besoin de quelque chose ?» Non, on n'aime pas être approché comme ça. On aime être approché par quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend et surtout qui s'est intéressé à nous. Eh ben déjà, tu l'as très bien dit, c'est pareil sur LinkedIn. Si on va à la rencontre d'un recruteur, plutôt que d'arriver tout de suite en disant « j'ai vu votre offre d'emploi, je suis la meilleure personne parce que X, X et X », bah peut-être que vous pouvez commencer par demander des précisions sur le poste, vous intéresser à la personne qui recrute, potentiellement en allant voir son actualité et pas seulement liker machinalement les trois derniers postes, mais vraiment aller placer des commentaires, réagir, rebondir. Tout ce que vous allez trouver sur le profil du recruteur, bah, ce sont des super accroches, ce sont des super moyens de nourrir la conversation et de laisser une empreinte indélébile.
Alors, je te rejoins complètement. Tu sais que je compare souvent la rencontre avec le recruteur à une rencontre amoureuse et on ne demande jamais rien la première fois, normalement, quand on rencontre quelqu'un. Il faut vraiment penser à ça aussi sur LinkedIn parce que j'ai le même problème que toi. Moi, je reçois beaucoup de demandes de connexion et on me dit « Pouvez-vous me corriger mon CV ? Pouvez-vous transférer ma demande de candidature ? Pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous ? » Alors, oui, on peut, mais en même temps, on est bénévole et on n'a pas non plus beaucoup d'heures devant nous pour le faire quand on a déjà un travail, mais il y a une manière d'amener les choses. Et moi, je donne, et je l'ai déjà donné cet exemple, j'ai dans la même journée reçu le CV d'une personne, enfin c'était une demande de connexion, c'était un jeune qui me dit « Bonjour Madame de Foucault », donc ça démarrait bien, et puis là il passe au tutoiement. « Il paraît que tu es bonne », et là je m'affole, il y avait un grand espace en CV. Peux-tu me corriger mon CV ? Et il m'envoie son CV en PDF. Donc déjà, l'approche m'avait un petit peu étonnée et j'ai pas eu nécessairement envie de corriger son CV parce que je ne savais pas à quel poste il postulait, j'avais pas le contexte, je n'avais rien. Et puis, dans la même journée, mais quelques heures après, je reçois une demande de connexion d'une jeune femme, cette fois, qui me dit « Madame de Foucault, je suis allée voir votre chaîne YouTube. J'ai adoré l'épisode sur le CV. J'ai tenu compte de vos conseils. Voici mon CV. Est-ce que vous pouvez me dire s'il correspond à ce que vous préconisez ?» Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit « Elle est maligne. » Et ce qui est drôle, c'est que si ça se trouve, elle n'était pas allée voir vraiment ma vidéo. Mais comme elle m'a parlé de moi, elle a parlé de mon travail, elle m'a mise en avant, j'ai plutôt eu envie de corriger son CV à elle parce que je suis un être humain comme tous les humains de LinkedIn.
Bah, t'as tout dit, Christelle. Alors, je sais pas si t'as vu, parce que je sais que tu me suis sur Insta, je fais une rubrique qui s'appelle LinkedIn, avec toutes les dingueries que je reçois sur LinkedIn, parce que moi aussi, ça passe depuis les impolitesses jusqu'aux erreurs de ciblage, où on essaye de me vendre des cartes de visite 3D, des photocopieurs, où on me dit votre prochain séminaire d'entreprise, alors que j'ai pas encore assez d'employés pour faire un séminaire. En fait, sur LinkedIn, je reçois tout et n'importe quoi, et je suis d'accord avec toi. En fait, à partir du moment où on fait le petit plus, le petit pas en plus, on fait vraiment toute la différence. Parce qu'il y a, on va dire, 60% des échanges qui sont complètement à côté de la plaque. Le reste n'est pas personnalisé. Et puis, il y a 1% de ceux qui font vraiment la différence, qui ont pris le temps de faire ce mini travail préliminaire. Donc ça, voilà, c'est la deuxième vraie grosse astuce. C'est intéressez-vous vraiment aux gens. Ne mettez pas le pied dans la porte, mais commencez par écouter. On en a parlé dans notre épisode sur la marque personnelle. Je vous invite à l'écouter. Je pense que Christelle vous le mettra dans les ressources de l'épisode. Et la troisième chose, on en a aussi parlé, Christelle, dans cet épisode-là, c'est commencer par donner. Et là, tu le dis, elle m'a flattée, elle t'a valorisée en parlant de ta chaîne YouTube. Une vraie grosse astuce, moi j'ai toujours décroché mes jobs parce que j'étais aux USA et il y a encore plus de demandes aux États-Unis pour trouver du boulot, plus de compétition et surtout quand ils embauchent des Français, il faut payer des visas. Donc la compétition est ultra rude. Moi, je postulais jamais aux offres d'emploi parce que je savais que j'allais pas les avoir tellement il y a de demandes. Par contre, j'essayais toujours de créer des postes. Et ça peut marcher aussi, cette astuce que je vous donne pour des postes auxquels vous postulez. Faites le pas en plus, ils appellent ça le extra mile aux États-Unis. Commencez par rendre service. Je vous donne un exemple très concret. Si vous postulez pour un poste en marketing ou en graphic design, en marketing, un poste de stratégie réseaux sociaux, préparez un petit audit gratuit en disant « Voilà, j'ai vu passer votre fiche de poste pour le poste en stratégie réseaux sociaux. J'ai pris le temps de regarder vos réseaux sociaux et voici quelques premières idées. M'accorderiez-vous un entretien pour pouvoir déployer ces points, éventuellement les affiner au regard de vos retours ?» Là, si t'as pas d'entretien avec ça. Et puis, si vous êtes graphic designer, mais je pourrais vous donner 1000 exemples, tu me diras, Christelle, si c'est pas assez concret. Si vous êtes graphic designer, par exemple, dans des professions plus artistiques, commencez à travailler l'identité visuelle. Il y a déjà des choses qui sont faites, proposez une déclinaison sur les réseaux sociaux. Pour vous, ça va vous prendre 20 minutes et vous êtes sûr de décrocher un entretien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment mon troisième gros conseil. Commencez par apporter, commencez par donner.
On est vraiment dans l'idée du don. Alors, ce que les chercheurs d'emploi me disent aussi souvent, c'est qu'ils ont peur de perdre du temps. Mais en fait, ils vont perdre du temps pour en gagner ensuite. Il vaut mieux faire 10 petites actions qu'une centaine qui n'aboutira pas au final. Et dans la démarche réseau, je te rejoins vraiment sur cette idée de « je m'intéresse à l'autre, je lui donne quelque chose ». Pour s'intéresser à l'autre, tu l'as dit, mettre des likes et des commentaires. Et puis ça peut être un petit message tout simple. « J'ai vu votre post ou votre publication sur tel sujet. Je partage complètement votre avis. Si en plus un commentaire a été laissé, bien la personne nous reconnaîtra. » Il faut savoir que quand on donne de la visibilité, tu peux vraiment parler de ces notions de viralité, quand on donne de la visibilité à quelqu'un, il nous aime déjà un peu. Et donc, il sera d'autant plus sensible si on essaye de rentrer en contact avec lui parce qu'il se souviendra qu'on est venu appuyer par un commentaire sa publication et ça, ça a de la valeur.
Exactement. Tu me donnes une petite astuce bonus à partager pour ceux qui nous écoutent. Si jamais on ne vous a pas répondu dans un message privé, déjà, soyez jamais aigri parce que potentiellement les recruteurs ou les personnes qui sont dans la lumière, qui ont des audiences, elles reçoivent énormément de messages sur LinkedIn. Cette messagerie, on en a parlé, c'est un peu un fourre-tout. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est imaginons que vous n'ayez pas reçu de réponse à votre gentil message privé. Un jour, j'ai retrouvé un CV personnalisé, Christelle, que j'avais jamais ouvert, par exemple. Tu vois, ça m'a fait vraiment, c'est un torboyau parce qu'on sait le temps que ça prend de faire une belle candidature. Si on vous répond pas, la puissance du commentaire est avérée également. Mais attention, toujours de façon positive. Si vous n'avez pas obtenu de réponse en messagerie privée, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur le prochain post de la personne. Vous activez la cloche sur son profil LinkedIn pour pouvoir vraiment suivre les prochaines actualités du recruteur. Soyez au taquet sur les prochaines publications et n'hésitez pas à lui dire, attention, toujours positivement, je vous ai écrit, j'adore votre post. Christelle, j'adore votre poste. Je vous ai écrit et vous ai fait parvenir une candidature pleine d'espoir. Hâte de vous lire. Et là, vous êtes sûr et certain qu'en mettant un commentaire public, autant on ne lit pas tous nos messages privés, autant vous êtes pratiquement sûr de vous faire repêcher dans la messagerie.
Je confirme, Caroline, parce que je reçois beaucoup de messages, je n'arrive pas à traiter tous mes messages. Et quand j'ai un commentaire qui me dit « Christelle, j'attends votre retour, je vous ai envoyé un petit message », j'ai toujours à cœur d'aller voir et de me dire « mince », et puis de m'excuser même de façon publique. Donc je reconnais que c'est en effet un bon conseil. Et puis, je parlais de l'algorithme, c'est pas tellement l'algorithme, mais le fonctionnement de LinkedIn. Quand vous laissez un message, enfin, quand vous envoyez une demande de connexion avec un message, vous allez rentrer dans les messages de la personne en attente. Alors que quand vous envoyez une demande de connexion sans message et que la personne valide, vous rentrez dans son réseau, mais elle peut vous oublier. Alors que s'il y a un message, elle ne vous oublie pas puisque vous restez dans ses messages. Et 2 jours, 3 jours après, elle va consulter ses messages. Donc c'est vraiment un vrai sujet pour moi, c'est de dire, mettez toujours un message personnalisé. Attention au téléphone portable, car quand vous faites se connecter, ça part directement sans message et il faut aller dans les 3 petits points ou voire plus pour pouvoir ajouter un message.
Alors là, tu me sers sur un plateau l'astuce numéro 5, Christelle, qui est qu'en fait, si vous voulez avoir un taux d'acceptation dans votre réseau de 100%, c'est possible. Il n'y a aucun mensonge, c'est statistiquement avéré. Le hack, c'est tout simplement la mise en relation. Aujourd'hui, si tu es introduit par la bonne personne, tu peux arriver dans le réseau de n'importe qui. La métaphore que je donne souvent, c'est la différence pour une demande d'invitation envoyée. C'est la différence entre quelqu'un qui essaye de s'incruster à une soirée sans avoir été invité. Imaginez les efforts qu'il faut déployer pour convaincre la personne, la séduire et puis après, une fois à la soirée, essayer de décrocher l'action que vous souhaitez décrocher. On peut facilement se projeter dans une recherche d'emploi. Et puis, imaginez que vous arriviez dans la soirée, invité par la personne la plus en vue de la soirée. Et puis qu'on vous dise, bah tiens, du coup, on m'a dit que tu cherchais un emploi. Ah bah oui. Et finalement, les gens viennent à vous. Et ça, c'est le pouvoir de la mise en relation et de la recommandation. Et tu le sais que je développe mon application Refer, qui est une application gratuite qui vous permet d'activer vos réseaux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait trop peu, c'est utiliser la puissance qu'on a déjà, toutes les relations que vous avez faites dans votre vie, toutes les empreintes bénéfiques que vous avez laissées chez quelqu'un, sont autant de personnes qui peuvent vous ouvrir des portes. Et c'est potentiellement derrière ces portes que vous êtes en train de frapper avec obstination sur LinkedIn sans utiliser votre meilleur joker, qui est la mise en relation. Mmh.
Peux-tu expliquer techniquement comment on fait une mise en relation sur LinkedIn ?
Alors, l'idée aujourd'hui, c'est quand vous êtes en recherche d'emploi, quel que soit le secteur d'activité, il y a des gens qui peuvent vous aider parce que autour de nous, tout le monde a eu vent de quelqu'un qui recherchait un boulot quelque part. Moi, aujourd'hui, je reçois 3 à 4 demandes par jour de personnes qui me disent « Caroline, voilà, je me lance en freelance graphic designer, je cherche un boulot. Caroline, je cherche une agence dans le SEO, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un ?» On est sans arrêt en train de recevoir des demandes entrantes et sortantes dans notre réseau. L'idée de Refer, c'est de pouvoir en fait vous permettre directement dans votre réseau LinkedIn d'identifier les personnes qui peuvent vous aider. Si demain je cherche un job de directrice communication, je vais pouvoir rentrer dans l'application, j'ai 30 000 contacts sur LinkedIn. Tu vois le casse-tête, on n'y voit pas très clair, ils sont pas très forts pour ça. Sur Refer, vu que tu demandes un job de directrice com, on va te trier dans ton réseau tous ceux qui sont dans l'écosystème marketing com. À partir de là, tu coches les cases et on va te préécrire le message, parce que ça, on va y revenir après, le message de mise en relation, il faut qu'il soit poli, léché, savoir-être, slash savoir-vivre, comme on disait. Et on va te préécrire le message et en un clic, tu vas pouvoir envoyer 20 demandes de mise en relation, c'est-à-dire demander à 20 personnes de ton réseau, est-ce que tu connais quelqu'un qui recrute en ce moment ? Et ça, c'est le levier le plus puissant de recrutement. Les recruteurs adorent les mises en relation parce qu'ils sont sûrs que ce sont des candidats davantage de confiance et aussi parce que c'est avéré qu'il y a plus de rétention. C'est-à-dire quelqu'un qui est recommandé en entreprise a tendance à rester plus longtemps. Et ça, ça a de la valeur aussi pour les recruteurs.
Donc, vous l'avez compris, le pouvoir de la recommandation est immense et je pense que tu vas avoir encore plus d'inscrits sur ton application Refer, surtout que c'est gratuit.
J'espère et c'est pour ça que je me permets d'en faire la promotion, Christelle. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, on n'utilise pas assez nos réseaux et je vois l'impact que ça a. On vous l'a dit, il y a des offres d'emploi, vous pouvez postuler, mais aussi pousser les portes, créer vos opportunités. Il y a beaucoup de candidatures spontanées qui peuvent être faites et ça vous permet aussi sur des candidatures existantes d'avoir votre CV en haut de la pile pour les bonnes raisons, parce que vous avez déjà brillé par le passé, alors exploitez ça.
Alors justement, concernant le réseau, tu parlais de la puissance finalement du collectif et j'ai souvent cette question sur les publications, c'est-à-dire que des chercheurs d'emploi qui arrivent, qui sont nouveaux sur LinkedIn, qui ont un petit réseau, qui n'ont pas demandé 10 000 personnes et qui ne peuvent pas le faire rapidement, me disent « mais ça sert à rien finalement de publier puisque je ne vais pas avoir de visibilité, mes posts ne vont pas être vus puisque je n'ai pas de réseau ». Donc je voudrais qu'on aborde un sujet qui parfois fâche, qui est un sujet qui est à la fois sérieux, important. C'est le sujet des pods, c'est le sujet des groupes d'entraide, parce que nous n'avons pas tout à fait le même regard, toi et moi, sur ces groupes. Toi, tu as un regard qui est beaucoup plus bienveillant. Moi, je fonctionne un peu à l'ancienne. Tu sais que j'ai créé mon réseau de 271 000 personnes.
Yes.
Je ne sais plus combien, en tout cas de plus de 270 000, un peu à la main et un peu toute seule sur 6 années. Toi, tu dis qu'il y a des moyens plus rapides de se constituer un réseau qui peuvent faire du bien aussi, qui peuvent soutenir. Et j'aimerais avoir ta vision parce que je trouve qu'elle est positive par rapport à tout le mal que l'on peut entendre sur les pods humains. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ?
Bien sûr. Alors déjà, pour rassurer ceux qui nous écoutent, l'algorithme de LinkedIn va quand même dans votre faveur parce que comme celui de TikTok, ce sont les seuls réseaux sociaux qui sont décloisonnés. C'est-à-dire que sur LinkedIn, comme sur TikTok, quel que soit votre nombre d'abonnés, quel que soit le degré de maturité de votre profil, que vous soyez inscrit depuis 1 mois ou 6 ans, vous avez la possibilité de faire un post viral qui crée un maximum de vues. Donc ça, c'est important. Je sais que tu as fait des épisodes sur Instagram. Sur Instagram, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir de la visibilité. Sur LinkedIn, vous avez encore une place à prendre. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Maintenant que j'ai dit ça, tu faisais allusion aux pods. Donc les pods, ce sont des groupes automatiques qui vont booster artificiellement l'algorithme. Ils mettent tout un tas de personnes dans un groupe et il y a un petit robot qui va passer et qui va utiliser votre profil et celui des autres pour que tout le monde aille liker et commenter. L'algorithme LinkedIn, il est excité par le fait qu'il y ait de l'engagement, des interactions sous un post. Donc ça va faire plaisir à l'algorithme, gonfler artificiellement vos statistiques, donc vous allez attirer davantage l'attention aussi. Ça, c'est en termes qualitatifs, c'est important. C'est que non seulement l'algorithme, il va vous montrer à plus de personnes parce qu'il voit que votre contenu plaît, mais en plus, les personnes qui viennent voir votre post se disent « Ah bah dis donc, il a 150 commentaires, c'est quelqu'un qui a de l'autorité ». Ces pods peuvent aussi être manuels. Donc là, on parle de groupe d'engagement. Et tu sais que moi, je préfère ce terme parce que pod, effectivement, ça a été tellement abusé. C'est tellement associé à de la malhonnêteté. Les groupes d'engagement, il n'y a rien d'automatique. Ce sont des communautés indépendantes qui se sont réunies en disant finalement, la loi des algorithmes, elle est un peu oligarchique. C'est ceux qui sont déjà puissants, ceux qui ont déjà du réseau, ceux qui ont déjà des boîtes avec des centaines d'employés, ils ont déjà la visibilité. Et ben pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas créer une alliance? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer notre grosse entreprise tous ensemble et s'entraider et s'envoyer de la force? Maintenant que j'ai dissocié ces deux écosystèmes, donc les pods qui sont des robots de l'engagement forcé et quelque part vous perdez la main sur la visibilité que vous accordez, c'est très risqué, et les groupes d'engagement qui sont un petit peu le groupe des Rémi sans famille, quelque part des communautés comme des clubs d'entraide, je vais vous détailler un petit peu les risques et les opportunités sur les deux écosystèmes. Le pod, il y a une vraie opportunité qui est que ça va gonfler artificiellement vos stats. Si vous voulez très facilement faire de la viralité, ça peut marcher. Je dis ça peut, pourquoi ? Parce que il y a un très gros risque à prendre en compte si vous avez un vrai profil, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui est là depuis 2 ans, qui avait déjà une vraie audience, qui avait commencé à travailler votre LinkedIn. Vous pouvez vous faire supprimer votre profil par LinkedIn. LinkedIn est de plus en plus fort pour détecter les pods. Et du coup, ça fait que si vous faites un petit faux pas, si vous dépassez un peu les quotas, et c'est un métier d'utiliser ces outils de gross marketing pour bien les utiliser, c'est-à-dire rester sous le radar de LinkedIn, mais aussi ne pas créer une mauvaise image, parce que c'est pas ce qu'on veut faire avec les pods, on doit les utiliser à juste mesure, en fait, vous prenez le risque de vous faire sucrer votre profil, c'est-à-dire de détruire tout ce que vous avez construit. Il y a un autre risque qui est le risque de la preuve sociale, c'est que finalement, les pods, c'est un petit peu comme la chirurgie esthétique. Tu te souviens, Christelle ?
On en avait parlé, en effet.
On en avait parlé. Et je t'avais dit, en fait, la chirurgie esthétique, tu peux pas être pour ou contre. Il y a des gens à qui ça sauve la vie. Il y a des gens à qui ça permet de reprendre confiance. Il y a des gens qui ont eu, tu vois, des malformations ou qui même sont handicapés par ça. Et en fait, il y a des gens qui n'avaient pas mérité. Ils n'ont pas eu les mêmes chances que les autres. Donc, pourquoi ils ne pourraient pas soigner ça ? Mais à côté de ça, il y a des abus avec la chirurgie esthétique. Et du coup, le problème, c'est aussi... Comme dans la chirurgie esthétique, est-ce que vous connaissez ce syndrome où en fait, vous voyez une fille magnifique, ou un homme magnifique d'ailleurs, et en fait, on vous dit « Ah bah tu sais qu'il est tout refait ». Et dès qu'on va vous dire ça, on n'y peut rien, on se dit « Ah, bah quelque part, c'est trop facile ». Et quelque part, notre estime, elle descend. C'est pour vous illustrer, j'avais besoin de cette petite image pour vous illustrer simplement le fait que le pod, c'est un petit peu la même chose. Quelque part, même si vous méritez cette attention, potentiellement, vous êtes aussi en train de détruire votre identité de marque personnelle, parce qu'on va se dire, c'est du fake. Et même si vous êtes quelqu'un de bien, même si vous partagez quelque chose qui a de la valeur, c'est déceptif.
Et je rajouterais que ça se repère quand même assez facilement, c'est-à-dire que très rapidement, on a beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires, mais souvent beaucoup de likes. Et le souci, c'est que quand on fait partie d'un pod automatique, notre profil est utilisé pour aller liker d'autres choses. Et parfois, on se trouve à liker des posts qu'on n'aurait pas envie ni de liker ni de commenter dans la vraie vie. Ça, c'est un des risques aussi qu'il faut annoncer à nos auditeurs.
De moins en moins, Christelle, parce que maintenant, les outils de pod sont hyper perfectionnés. Tu peux créer des boucles de commentaires, tu sais, des cycles de gens qui se répondent. Tu peux taguer les gens dans les commentaires artificiels. Je sais que ça va pas te faire plaisir, mais les avancées technologiques en matière de pod. Donc, ce qui fait que maintenant, si vous voulez créer un engagement artificiel de 300 commentaires, par exemple, et 20 likes, c'est possible. Mais par contre, ça se détecte quand même, Christelle. Déjà, je vais vous dire, tous ceux qui font partie d'un pod, ils se connaissent entre eux, puisqu'il y a des engagements automatiques qui sont détectés. Donc voilà, déjà, il y a toutes ces personnes-là qui sont au courant. Et puis aussi, tu vois, typiquement, la pauvreté des commentaires. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que vous postez sur les réseaux sociaux ? Pour avoir du vrai feedback. Si tout le monde dit top, tout ça, ou pose des questions un petit peu trop faciles, voilà. Donc, pour résumer, ce qu'on pourrait dire, Christelle, pour reboucler, les pods, à utiliser si vraiment vous êtes un aguerri de ces outils de grosse, si vous savez bien le faire, l'utiliser à sa juste mesure pour déclencher des vraies conversations. En gros, à utiliser un pod comme conversation starter, c'est-à-dire pour initier un vrai mouvement organique intelligemment et pas en fait en considérant que c'est une finalité en soi. Ça, c'est la partie pod.
Et alors la deuxième partie que tu préfères, qui sont, comment on les appelle déjà, des groupements ou
les groupes d'engagement.
Les groupes d'entraide.
Les groupes d'engagement, les groupes d'entraide, les clubs, ça ce n'est que en fait un miroir de ce qu'on fait déjà en entreprise depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la communication interne. Notre entreprise sera sur tel salon, parlez-en autour de vous, nous avons fait un post LinkedIn sur tel sujet, notre dirigeant s'exprime sur telle scène ou sur tel réseau social. Ben, en fait finalement, c'est partir du principe que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et on peut se constituer en communauté et s'entraider pour avoir plus de vues sur nos postes en disant on va créer un mini club, et ce mini club c'est celui des gens qui n'ont pas de famille, et moi ce truc là tu sais que ça me tient à cœur parce que c'est le réseau que vous vous êtes créé, et je trouve qu'aujourd'hui c'est une façon très intelligente de créer tout simplement des associations et des partenariats. Et moi, via ces groupes d'engagement, Christelle, j'ai vu émerger ce genre de belles choses, des amitiés, des créations de boîtes, des fusions. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regard positif là-dessus, mais je vais quand même vous partager les risques. Les risques de ces groupes d'engagement, le premier, on n'en parle pas assez, c'est que pareil, ça se détecte. Et en fait, c'est intimidant de l'extérieur. Un petit peu comme si dans une soirée, vous arriviez en bande. Et bien, si vous arrivez dans une soirée en bande, pour reprendre cette métaphore, vous allez peut-être faire moins de belles rencontres. Vous allez peut-être moins vous ouvrir aux autres. Vous allez peut-être être plus intimidant et vous allez peut-être agacer. Parce qu'on voit toujours les mêmes, parce que voilà. Donc, il y a aussi des risques et il faut en être conscient. Encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est tout rose ou tout noir, mais c'est de comprendre les tenants et les aboutissants et y introduire la juste mesure.
Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, on finira aussi là-dessus, je pense qu'ils peuvent être condamnés, je ne dis pas condamnables, mais qu'ils sont condamnés parce que il y a des personnes comme moi qui ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures à gagner en visibilité sans faire appel à des groupes ou des artifices. Et je pense que ces personnes-là se disent, j'ai fait tout ce travail et puis les petits nouveaux, alors ça ne veut pas dire des petits jeunes, hein, mais les petits nouveaux arrivent et puis finalement, 6 mois, ils réussissent à faire ce que moi j'ai mis 6 ans à faire. Ça peut être l'idée. Et je trouve qu'on ressent beaucoup, beaucoup ce que tu décris, cette notion de bandes, de groupes, de personnes entre elles. Et en tout cas, je voudrais dire à tous ceux qui décident d'être dans un groupe d'entraide, faites attention à ne pas répondre qu'aux membres que vous connaissez. Parce que quand quelqu'un vient, moi ça m'arrive hein, d'aller mettre un petit commentaire, d'aller donner de la visibilité, eh bien le créateur ou celui qui a créé le poste, comme il ne me connaît pas, ne vient pas nécessairement me répondre, mais on le voit répondre à tous ses amis. Et on peut se dire aussi que LinkedIn, ce qui est bien, c'est de s'enrichir de nos différences. Et quand on voit un groupe avec que des entrepreneurs ou que des ghostwriters, que des copywriters, que des personnes qui ont la même activité, c'est un peu de l'entre-soi. Et tu me connais, tu sais que je n'aime pas du tout l'entre-soi. Je pense que c'est contre-productif.
Tu as complètement raison. Honnêtement, je n'aurais pas mieux dit, Christelle. C'est hyper important, encore une fois. Le réseau, c'est un trampoline, ce n'est pas une finalité en soi. Et il y a aussi quelque chose qui me semble important de préciser. Vous avez des mentors sur LinkedIn, il y a des gens que vous admirez, qui paraissent inaccessibles, mais ces personnes-là, taguez-les, créez des nouvelles relations. En fait, le groupe d'entraide, c'est quelque chose qui est évolutif, c'est pas votre bande de potes, un petit entre-soi, c'est une facilité pour vous qui êtes timide, introverti, débutant, de grandir davantage, de partager les compétences avec d'autres personnes, de grandir ensemble. Donc les groupes ne sont positifs que s'ils sont inclusifs, et tu fais bien de le préciser. Pour ceux qui recherchent un emploi, n'hésitez pas à taguer les personnes que vous admirez, que ce soit des personnes dans votre écosystème ou les personnes que vous cherchez à atteindre. Si vous postulez pour un poste, vous avez peut-être fait un petit message privé. Peut-être que vous pouvez poster en disant aujourd'hui, j'ai vu passer le job de mes rêves et j'ai envoyé un message timide à Christelle de Foucault pour lui demander ça. Je voulais partager ma joie avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à créer aussi du contenu pour aller chercher d'autres personnes et nourrir ces cercles. Et en tout cas, osez vous dépasser, osez élargir votre cercle.
Élargir son cercle, donc, c'est aussi aller vers d'autres profils, des gens qui ne sont pas dans le même métier, pas uniquement des chercheurs d'emploi, pas uniquement des recruteurs. Si on est senior, ça peut être des jeunes. Si on est jeune, aller vers les seniors, ne pas rester en bande, c'est ce qui fait la richesse d'un réseau. On va terminer cet épisode sur ça. Un dernier petit conseil concernant le réseau avant qu'on se quitte, Caroline ?
J'ai adoré ce que tu as dit, Christelle, sur le fait que le réseau, c'est pas opportuniste. Souvent, j'entends comment cibler la bonne personne, parler à la bonne personne. Et je trouve que c'est pas une belle approche. Moi, je dis souvent aux entrepreneurs qui veulent absolument vendre, je leur dis en fait, respectez. Donner la même attention, la même lumière à toutes les personnes qui vous parlent. Tous ceux qui sont pas vos clients, c'est des ambassadeurs. J'ai envie de dire pareil à ceux qui cherchent un emploi aujourd'hui. Vous ne vous adressez pas qu'aux recruteurs, que ce soit dans l'épisode sur la marque personnelle ou sur les réseaux. J'espère que si vous retenez une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, respectez tout le monde égalitairement et donnez de la lumière à tous et partagez avec générosité pour tout le monde. C'est ça l'inclusion et c'est le réseautage, ce n'est que ça.
Merci Caroline pour ces mots, merci pour tes conseils, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu donnes sur LinkedIn. C'est très précieux que ce soit sur LinkedIn ou sur Marketing Square, ton podcast. Merci à vous, chers trouveurs d'emploi, de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un troisième épisode avec Caroline Mignot.
À très vite.
Merci d'avoir écouté Trouveurs d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
Vous venez d'écouter Trouveurs d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.